Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Afrique centrale, tout d'abord, en République démocratique du Congo, les enquêtes se poursuivent après le crash jeudi dernier d'un avion cargo Antonov 72 transportant la logistique présidentielle. Les débris de l'appareil ont été retrouvés dans un village de la province de Sankuru, dans le centre du pays. Selon les premiers éléments mis à la disposition de la presse, les dépouilles de trois des occupants du cargo trouvés sur place ont été placées dans une morgue de la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Le gouvernement congolais invite la population à la retenue et à éviter toute spéculation en attendant les conclusions de l'enquête. Plus de détails avec Thierry Kambundi, notre correspondant à Kinshasa.
Une première délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du crash hier mercredi. Cette équipe, composée notamment du ministre de la Défense, du ministre des Transports, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires, y était précédée par le gouverneur de province qui, la veille, avec un premier groupe d'experts, a réussi à déterrer les restes des trois corps des victimes du drame. Le gouvernement, qui ne communique que très peu depuis le jour du crash, a simplement dans un communiqué du ministère de l'Intérieur appelé la population au calme et à la retenue. Les enquêtes sont présentement menées par des experts congolais avec un appui logistique de la MONUSCO. Ils promettent de tirer au clair et au plus vite cette affaire. Pour rappel, Antonov 72 avait disparu le jeudi 10 octobre dernier alors qu'il avait quitté Goma pour Kinshasa avec à son bord 8 personnes et la logistique présidentielle d'après un communiqué de l'autorité. Autorité de l'aviation civile. Les habitants de Koto, dans la province du Sankuru, ont découvert les débris de l'appareil le vendredi à 7 km de leur village. Kinshasa, Thierry Kambundi pour VOA Afrique.
En République centrafricaine voisine, une première unité composée de militaires des FACA, les forces armées centrafricaines, et d'ex-combattants de groupes rebelles, va commencer sa formation. Une étape cruciale du processus de paix en RCA, a affirmé mercredi le président Faustin-Archange Touadéra. L'intégration des combattants rebelles dans l'armée régulière à travers ces unités spéciales mixtes de sécurité est l'un des piliers de l'accord de paix de Khartoum signé le 6 février entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés opérant dans le pays. Afrique australe maintenant. En Afrique du Sud, plusieurs centaines de réfugiés ont manifesté mercredi dans la ville du Cap, dans le sud-ouest du pays. Les protestataires demandent à être relocalisés à la suite des violences xénophobes, meurtrières, qui ont récemment secoué le pays. Irénée Hermanongbo fait le point.
Sauver les vies des réfugiés avant qu'il ne soit trop tard, a scandé les manifestants devant les bureaux du HCR. L'Afrique du Sud n'est pas mieux que les pays que nous avons fui, lance Jean-Pierre Balus, un réfugié de la RDC qui ne souhaite qu'un abri pour ses enfants en vue d'une meilleure éducation. On est fatigué et on rend la vie plus facile aux Sud-Africains car nous voulons partir le plus vite possible, réclame une Burundaise Sylvia Naïmana. Chaque jour, les femmes se demandent si elles vont revoir leurs maris ou leurs enfants. S'inquiète-t-elle, nos papiers sont inutiles, ils ne sont pas reconnus, on ne peut pas trouver du travail, dénonce Sylvia. Depuis une semaine, des centaines de réfugiés campent devant les bureaux du HCR au Cap et à Pretoria, les capitales parlementaires et politiques sud-africaines, pour réclamer de l'aide, notamment de la part de l'agence onusienne, afin de quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent plus en sécurité. La manifestation d'hier s'est tenue au lendemain d'une visite de 2 jours du haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, qui s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Afrique australe toujours, corruption en Mozambique. Le procès d'un homme d'affaires présenté comme le cerveau d'une opération à 2 milliards de dollars avec des pots de verre en cascade qui a mis le Mozambique au bord du précipice financier a commencé mercredi à New York, ici aux États-Unis. 5 personnes avaient initialement été inculpées, mais 3 ont déjà plaidé coupables et la 5e n'est pas en territoire américain, ce qui a laissé le Libanais Jean Boustany seul sur le banc des accusés. La justice américaine s'est mêlée du dossier, notamment parce que les investisseurs américains auraient été lésés dans cette affaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, agitation en Guinée, environ 9 morts. C'est le bilan des manifestations qui agitent la Guinée depuis lundi. C'est ce qu'ont finalement reconnu les autorités de Conakry, alors que des opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé comparaissent devant la justice et que la communauté internationale s'inquiète de l'escalade des tensions. L'opposition guinéenne et la société civile militent depuis des mois contre un projet de nouvelle constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait au président Alpha Condé de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat. La charte fondamentale actuelle limite le nombre de mandats présidentiels à 2 seulement. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé dans l'opposition, a porté plainte mercredi après la tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne dont il dit avoir été l'objet, selon son avocat. Plus de précision avec Jean-Roger Bion.
Maître Xavier Cos Valero s'est fendu en de multiples interrogations. Nous voulons connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé, quel corps policier a fait irruption dans sa chambre, quels étaient les ordres, les motifs. M. Soro avait assuré à Valence, en Espagne, que des policiers espagnols avaient tenté de l'arrêter à son hôtel en pleine nuit, selon ses propos diffusés sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Le 8 octobre à l'aube, vers 3 heures du matin, alors qu'il dormait, un groupe de policiers en uniforme et armés a fait irruption dans sa chambre. Notre client a exhibé son identité, son passeport diplomatique. Le chef apparent du groupe a appelé quelqu'un et les policiers sont partis sans donner d'explication. Le tout a duré une heure et demie, a précisé l'avocat, soulignant que ce témoignage de M. Soro figurait dans la plainte, ajoutant « Il y a une violation de ses droits fondamentaux ». Dans sa déclaration à Valence, Soro Guillaume avait affirmé qu'il avait appelé en pleine nuit le siège d'Interpol à Lyon, en France, et que celui-ci n'était pas informé d'une procédure contre lui. Un porte-parole de la police catalane a affirmé à l'AFP ne pas avoir connaissance de tels faits et une haute source sécurité ivoirienne a affirmé de son côté « Je suis catégorique, ça ne vient pas de chez nous ». Nous n'avons pas saisi Interpol. Ancien allié du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro est candidat au prochain scrutin présidentiel.
Actualité hors d'Afrique, conflit en Syrie, le vice-président des États-Unis Mike Pence, dépêché par le chef de l'exécutif américain Donald Trump en Turquie, va tenter ce jeudi d'arracher un cessez-le-feu au président turc Recep Tayyip Erdogan, jusqu'à présent inflexible dans sa volonté de mener à bout son offensive contre les milices kurdes dans le nord-est de la Syrie. M. Pence, qui est maintenant à Ankara, doit rencontrer le président Erdogan en compagnie du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Notre mission est de voir si nous pouvons obtenir un cessez-le-feu, voir si nous pouvons négocier, a affirmé M. Pompeo. Une semaine jour pour jour après son déclenchement, l'offensive turque contre la milice kurde des unités de protection du peuple a déjà fait 300 000 déplacés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Syrie même, Mazloum Abdia, le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes, dominées par les combattants kurdes, a annoncé hier soir le gel des opérations contre le groupe terroriste État islamique, passé dans la clandestinité depuis la chute de son califat en mars. Les précisions de John Lyndon.
Nous avons gelé toutes nos activités contre Daesh, déclare Mazloum Abdi dans un entretien télévisé sur la chaîne kurde Ronahi. Les FDS se contenteront d'opérations défensives face à Daesh, ajoute-t-il. Cette déclaration intervient alors que la Turquie mène depuis le 9 octobre une offensive contre les zones kurdes dans le nord de la Syrie, d'où se sont retirées les forces américaines. Après la chute de son califat à l'issue d'une longue bataille menée par les forces kurdes soutenues par Washington, le groupe État islamique a muté en organisation clandestine, œuvrant à travers le vaste désert syrien. Au cours des derniers mois, l'organisation djihadiste a revendiqué plusieurs attaques meurtrières dans des zones prises par les FDS, mais aussi contre les forces du régime. La dernière attaque en date a fait 6 morts le 11 octobre dans la ville de Gamishli. Depuis mars, les FDS sont lancés dans une traque des djihadistes encore en liberté en Syrie, notamment dans la province de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Les forces kurdes détiennent 12 000 djihadistes, dont 2 500 à 3 000 étrangers, ainsi que des dizaines de milliers de civils liés au groupe État islamique.
Et pour terminer, un accord sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été conclu. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à quelques heures du sommet européen qui doit sceller le sort du départ du Royaume-Uni de l'Union, prévu dans 2 semaines. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.